Les téléspectateurs,
Les 9h40, merci d'accueillir l'instant M partout. Vous êtes dans la voiture, dans la cuisine ou au boulot.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Comment un journal bénéficiaire appartenant à un groupe de presse bénéficiaire se retrouve-t-il à avoir sacrifié un quart de ses effectifs ? La Voix du Nord entame un plan social sans précédent. Jean-Michel Bretonnier, son rédacteur en chef, va s'en expliquer dans un instant au micro de France Inter. Et ce d'autant que Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont et vice-président du Front National, a immédiatement réagi à cette annonce, accusant notre invité d'avoir politisé la ligne éditoriale du journal et d'en payer le prix aujourd'hui, comme si la Voix du Nord tendait à exclure les habitants de la région ayant massivement voté à l'extrême droite. Ce sera dans quelques minutes. D'abord, actu américaine des journalistes et des réseaux sociaux. Bonjour Edouard Tella.
Bonjour Sonia.
Facebook est-il un média ? Bonne question.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
My conversations with you, the American people, have kept me honest and kept me inspired and kept me going. And every day I have learned from you. You made me a better president. And you made me a better man.
Dernier discours de Barack Obama et un tweet cette nuit. Notre consoeur Laurence Haïm, correspondante à Washington du groupe Canal+, seule journaliste télé française à être accréditée à la Maison Blanche, quitte la chaîne d'info iTélé. Elle la quitte comme 95 confrères qui ont quitté la chaîne d'info cette année. Alors, Redouane Tella avec nous ce matin, en studio et non pas en régie ou au bureau comme il se doit. Cette semaine, Facebook a recruté la journaliste américaine Campbell Brown. Elle a travaillé pour le New York Times, le Wall Street Journal, CNN et elle a même animé la matinale du week-end de la toute puissante NBC. Elle devient la responsable média de Facebook. C'est quoi une responsable média pour un réseau social ?
Mais alors, c'est un poste qui n'existait pas jusqu'à présent et qui consiste, je cite, à faire comprendre aux journalistes médias comment Facebook peut offrir de la visibilité à leurs articles. En clair, elle veut occuper un poste de VRP de luxe auprès de grands journaux américains pour leur vendre les outils qui vont booster leurs audiences. Attention, recrutement très symbolique. Campbell Brown fut l'une des voix qui se sont élevées pour dénoncer ce qu'on appelle les fake news, ces fausses infos circulant sur le web, ces intox qui bénéficient d'une audience folle grâce aux réseaux sociaux.
Exemple, on adore.
Le pape aurait soutenu Donald Trump. Hillary Clinton était en fait un sosie d'Hillary Clinton et le sida aurait été inventé par la CIA.
Voilà, évidemment, de très nombreuses voix se sont élevées pour accuser directement l'entreprise de Mark Zuckerberg, directement Facebook, d'être responsable de la diffusion de ces fake news.
Oui, et selon BuzzFeed News, qui a fait le décompte pendant la campagne électorale, les Américains ont même lu plus de fausses news que de vraies. L'arrivée de Campbell Brown sur Facebook est donc éminemment politique. C'est faire passer le message aux grands médias que Facebook les replace dans la bataille de la visibilité.
Voilà, et sur ce point, Mark Zuckerberg a totalement changé. Aujourd'hui, il se dit responsable de la manière dont sa technologie est utilisée.
Oui, c'est assez étonnant puisqu'il s'en lavait les mains jusque-là. Et même s'il persiste à dire qu'il n'est pas un média, il multiplie les initiatives visant à éditorialiser les contenus que l'on peut retrouver sur Facebook. Exemple plus récent, il a lancé il y a un mois un partenariat avec de nombreux journalistes d'AP, d'ABC News et de PolitiFact visant à fact-checker Facebook. Dès lors qu'un de ces journalistes signale une fausse info, la fausse info n'apparaît plus sur Facebook. Il y a donc véritablement un avant et un après Trump dans la stratégie de Zuckerberg.
Bon, alors en même temps, fausse news ou vraie news, tout ça doit quand même continuer à rapporter de l'argent. Évidemment.
Ouais, on l'a appris hier, la publicité pourrait faire son apparition dans nos vidéos Facebook.
Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de pub dans les vidéos Facebook.
Aucune pub dans les vidéos Facebook. Et l'ambition, c'est de se rapprocher de la stratégie de Google, propriétaire de YouTube, à savoir rémunérer les vidéastes de Facebook à hauteur de 55% pour les fidéliser à la plateforme. Mm-hmm. Tout comme Google, autre géant du web qui ne se considère pas du tout, comme un média et qui pourtant en a tous les attributs.
Voilà, donc il y aura des Facebookers exactement comme il y a des YouTubers.
Exactement le même principe.
Voilà, et si c'est pas des petits jeunes qui se filment dans leur chambre à coucher, ça va aussi rapporter de l'argent, ces vidéos, à France Inter qui publie Guillaume Meurice sur Facebook,
notamment,
par exemple.
Notamment la vidéo de Guillaume Meurice ou de Pierre-Emmanuel Barré qui sont vues des millions de fois sur Facebook, vont rapporter beaucoup d'argent à France Inter.
Bah c'est le jackpot alors.
Exactement le jackpot.
Eh bah c'est le jackpot. Merci Redouane Tella. Alors le dossier du jour, c'est la casse sociale. sociale, la casse sociale qui se prépare au sein du grand quotidien lillois, La Voix du Nord. Le comité d'entreprise extraordinaire a eu lieu hier. Les cadres peuvent donc enfin s'exprimer officiellement, publiquement. Jean-Michel Bretonnier s'apprête à recevoir 3 jours durant tous les salariés du journal, corps de métier après corps de métier. Réunion qui commence à l'instant même. Il était donc avec nous il y a exactement 1 heure en duplex dans les studios de France Bleu Nord.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Bonjour Jean-Michel Bretonnier.
Bonjour.
D'abord, confirmez-vous l'ampleur du plan social qui vous tombe dessus désormais?
Oui, mais je précise d'abord les chiffres. Donc les chiffres font état de 170 postes qui seront supprimés, mais également 19 postes qui seront créés. Pour la rédaction, pour les journalistes, on a écrit même, dans plusieurs journaux que nous supprimions 72 postes de journalistes, ça n'est pas le cas, c'est 55 postes de journalistes qui sont proposés.
C'est un plan important néanmoins. Hein, il s'agit de chiffres massifs hein, par rapport à vos effectifs globaux. Alors, La Voix du Nord connaît toutes les difficultés de son secteur. Hein, un chiffre d'affaires publicitaire qui a été réduit de moitié en 4 ans, des ventes qui ont baissé l'année dernière de 4 à 5%. Et pourtant, c'est un journal qui demeure bénéficiaire avec 5 millions de résultats nets l'année dernière.
Nous sommes effectivement un journal qui se porte moins mal que d'autres. Si nous nous portons moins mal que d'autres, c'est parce que nous avons devancé à plusieurs reprises dans notre histoire les difficultés. Nous avons réussi, nous, à tenir les chiffres d'affaires ventes de journaux. Nous avons progressé de 1 million d'euros en vente, en chiffre d'affaires ventes de journaux entre 2003 et 2016 parce que nous avons créé le journal du lundi qui n'existait pas, parce que nous avons un prix facial plus élevé que la moyenne des journaux. Ce modèle a atteint sa limite. On ne peut pas augmenter le prix du journal tous les ans, c'est évidemment exorbitant, et nos lecteurs ne l'accepteraient pas.
Jean-Michel Bretonnier, vous compreniez que vous appartenez à un groupe qui s'appelle le groupe Rossel, qui est un groupe familial, qui n'est pas soumis à la pression des dividendes boursiers, qui n'est pas coté, et qui est un groupe qui se porte bien, qui sera certainement acquéreur d'autres titres en France, Paris-Normandie, peut-être même des titres de l'Est de la France. Donc c'est un groupe bénéficiaire, le journal est bénéficiaire. Vous comprenez bien que l'ampleur d'une telle opération puisse heurter, puisse choquer, puisse interroger, justement dans un groupe où on gagne encore de l'argent avec la presse.
Oui, mais quand nous faisons des projections mécaniques de nos chiffres d'affaires et de nos charges, nous arrivons dès 2018 à perdre de l'argent. Et ensuite, ça va très vite. Nous voulons conserver la possibilité d'investir. C'est vraiment très très important. La logique de groupe est une logique également pour nous qui est importante parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de gagner plus d'argent que d'autres. Quand nous rachetons le courrier Picard, nous imprimons le courrier Picard. Et donc, du coup, nous amortissons nos machines plus facilement. Lorsque nous rachetons l'Union de Reims, l'Union et l'Ardennais, il perdait autrefois 6 millions d'euros par an, il gagne aujourd'hui de l'argent. Donc, nous sauvons un titre et nous mettons en place des synergies entre nous. Les investissements numériques se voient moins que les investissements papier. Une rotative, ça se voit, ça coûte cher, mais on l'achète une fois tous les 20 ans. Les investissements numériques sont moins voyants, mais beaucoup plus fréquents et très coûteux.
Tous les observateurs pointent l'âge très élevé, hein, 70 ans en moyenne de vos abonnés papier. Les abonnements, c'est 74% de vos ventes. Alors, comment préparer l'avenir sans sacrifier vos lecteurs d'aujourd'hui?
Alors, les acheteurs, effectivement, ceux qui ont l'habitude d'acheter le journal tous les jours, ceux qui nous font vivre, parce que c'est l'essentiel de nos ressources, ceux-là sont âgés. Donc, effectivement, il est vital pour nous, pour qu'on puisse exister dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il est vital pour nous d'investir dans les nouveaux supports, dans les nouvelles pratiques, pour respecter les nouveaux usages de consommation de l'information. C'est ça que nous voulons faire.
Mais ce qu'on voudrait bien comprendre, Jean-Michel Bretonnier, c'est pourquoi on sacrifie 50 journalistes alors que le passage au numérique ne suppose pas qu'on sacrifie des journalistes, des rédacteurs. Ça, au contraire, ça suppose d'autant plus de gens sur le terrain pour être réactifs et au plus près de l'information en temps réel.
Aujourd'hui, nous sommes 340. Mm-hmm. Nous proposons 285. Soumis à la négociation. Je suis dans cette maison depuis 40 ans, j'ai 63 ans, je tiens à ce métier, j'aime ce journal et je n'aurais pas accepté évidemment de sacrifier la qualité du contenu, de sacrifier les conditions de travail des journalistes. Nous ferons un bon journal dans des conditions de travail tout à fait acceptables.
Alors, il n'y a pas seulement une réduction d'effectifs qui a été évoquée, mais également le nombre d'éditions locales qui pourraient être diminuées. Vous confirmez cette information ?
Oui, nous avons 24 éditions locales sur deux départements, c'est-à-dire par rapport à la moyenne de la presse quotidienne régionale, nous avons beaucoup d'éditions, c'est-à-dire que nous allons très loin dans ce qu'on appelle la proximité, nous faisons beaucoup de pages, nous faisons 350 pages tous les jours. Nous allons produire un peu moins, mais vraiment un tout petit peu moins, et nous allons fusionner des éditions pour passer de 24 éditions à 20 éditions.
Lesquelles ?
Il y a nos deux éditions de Lens, par exemple, nos éditions d'Arras et de Saint-Paul, d'Avesnes et de Maubeuge, qui sont en fait des arrondissements, des secteurs entre lesquels les gens circulent facilement. Et donc il y a une vraie cohérence à fusionner ces éditions.
Alors, Jean-Michel Bretonnier, dans un communiqué de presse, Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont et vice-président du FN, a immédiatement réagi quand l'information est parue sur ce futur plan social. « Ces postes, écrit-il dans un communiqué, sont la malheureuse conséquence d'une ligne éditoriale qui s'est radicalement politisée sous l'impulsion de Jean-Michel Bretonnier. » Vous êtes donc nommément désigné sous la plume de Steve Briouat. « Ligne qui s'est radicalement politisée au risque de ne plus faire d'information et d'imposer un militantisme rebutant. »
Oui, alors ce sont des divagations. J'ai l'habitude que Steve Briouat s'attaque à moi. Je ne réponds jamais directement à Steve Briouat. Ce qui m'embête davantage, c'est qu'il s'attaque à nos journalistes à Hénin-Beaumont. Ça, c'est beaucoup plus ennuyeux. Il les harcèle. Il refuse de répondre aux questions de nos journalistes. Et quand nous écrivons sur des sujets municipaux, il nous abreuve, il nous inonde de droits de réponse. C'est sa conception à lui du droit de la presse et des relations avec la presse. Évidemment que notre situation n'a rien à voir avec le traitement du Front National, parce que sinon, ce serait pas très grave. Le problème serait bien circonscrit. C'est l'ensemble de la presse mondiale écrite qui est en plein bouleversement. On est bien loin du microcosme héninois.
Évidemment, sauf que Steve Briouat vous accuse, entre autres, dans ce texte qu'il a publié, d'avoir creusé le fossé entre votre rédaction et son lectorat, ce qui sous-entend que La Voix du Nord exclurait en fait tout ou partie des habitants de la région qui ont massivement voté pour le Front National, même si le Front National n'a pas remporté la région.
Oui, alors nous avons donc publié un dossier avant les élections régionales dans une région qui a voté fortement Front National, et on imagine bien évidemment que certains de nos lecteurs ont voté Front National.
Alors, le dossier en question, Jean-Michel Bretonnier, parce que c'est un fait relativement rare dans l'histoire de la presse quotidienne régionale, ce que vous avez fait, ça a été beaucoup commenté, ça a été beaucoup remarqué. Vous aviez fait cette une « Pourquoi une victoire du Front National nous inquiète ?» Je vous propose d'écouter la réaction de Marine Le Pen à ce moment-là.
Bah écoutez, c'est tout à fait exceptionnel. Ça n'est jamais arrivé qu'un journal régional s'en prenne aussi violemment à un candidat dans le cadre d'une élection régionale. Bon, je pense que ça révèle que La Voix du Nord, précisément, n'est pas un journal libre. En réalité, il est tenu par les subventions qui lui sont accordées par le Conseil régional socialiste depuis des années. Je comprends donc mieux la raison pour laquelle j'ai droit à 3 pages aujourd'hui, probablement 3 pages demain.
Jean-Michel Bretonnier, voilà, c'était la réaction à chaud de la présidente du Front National. Concrètement, est-ce que vous diriez que vous avez pu couper La Voix du Nord d'une partie des lecteurs qui sont également des électeurs dans la région ?
On a reçu un certain nombre de courriers. Je pense que 200 lecteurs ont abandonné notre journal après ce dossier. D'autres l'ont rejoint. Mais surtout, je pense que les lecteurs, les habitants de la région font la part des choses. Nous existions avant le Front National. Nous sommes partie prenante de leur vie. On peut avoir eu une position qui a pu heurter certains électeurs du Front National, mais je pense que ils continuent à nous être fidèles parce qu'ils savent que nous partageons leur vie depuis longtemps et que nous allons la partager encore longtemps. C'est-à-dire que nous sommes avec eux dans la région tous les jours. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un journal, nous continuons à informer. Ça, ils le voient, ils le sentent, ils savent aussi que nous avons des valeurs. Nous avons reçu aussi beaucoup de courriers à cette époque-là, de gens qui nous disaient « Votre réaction nous a fait du bien, On sait d'où vous venez, on sait quelle est votre origine. On pensait être les seuls à trouver étrange que peut-être la région Nord-Pas-de-Calais se donne au Front National. Nous ne sommes pas les seuls et ça nous fait du bien de le savoir. Donc, je pense que notre rôle de journal a été tenu pendant cette épreuve des élections régionales et je pense qu'on ne nous a pas tenu rigueur de cette prise de position, au contraire.
Alors le jour où Steve Briouat vous attaquait par voie de communiqué presse, Marine Le Pen faisait ses vœux à la presse, coïncidence du calendrier, je cite Marine Le Pen, « Sans liberté de la presse, pas de liberté d'opinion, pas de liberté d'expression, en un mot, pas de démocratie ». Il vous a semblé qu'il y avait un hiatus là, dans ce calendrier ?
Oui, oui, il y avait un paradoxe vivant. Ce qu'on constate avec la mairie d'Hénin-Beaumont, c'est que nos relations se sont très vite dégradées. Lorsqu'on émettait des critiques, mais comme on fait pour d'autres villes évidemment, dans la gestion de la gestion municipale d'Hénin-Beaumont, pour le maire d'Hénin-Beaumont, on s'attaquait aux Héninois. C'est-à-dire qu'il avait considéré que du jour où il était élu, les Héninois, c'était lui, en quelque sorte. On peut craindre que si demain Marine Le Pen soit élue présidente de la République, les Français se soient elles et qu'on ne puisse plus critiquer Marine Le Pen parce qu'on critiquerait les Français. Mmh. C'est ça, leur conception de la démocratie, c'est pas exactement la nôtre, c'est ce que nous avions voulu dire dans ce dossier dont nous parlions tout à l'heure.
Voilà, et puis on voit bien à la mairie d'Hénin-Beaumont qu'on contre-attaque par voie de presse municipale, mais également par voie numérique. Et là, peut-être, on rejoint le sujet qui vous occupe aujourd'hui au moment où vous entamez ce plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire qu'on voit bien la puissance des outils et des réseaux sociaux dont se servent, notamment le Front National, et qu'il vous faut aussi rivaliser justement dans cette sphère-là.
Oui, alors on s'aperçoit effectivement de plus en plus que ces réseaux sociaux ont une puissance absolument considérable, mais je pense que le moment est en train de venir, et je crois que, que le moment va se confirmer, où les gens auront besoin de plus en plus de voir clair dans ce chaos d'Internet, espèce de maelstrom, ce flux incessant, et ils auront besoin qu'on les guide, qu'on les aide à reconnaître ce qui est de l'information et ce qui n'en est pas. On a vu aux États-Unis, on a vu en Angleterre, on a vu un peu partout récemment que de la désinformation peut obtenir des résultats politiques.
C'est intéressant puisque justement la mairie d'Hénin-Beaumont se sert de sa page Facebook, vraiment ouais. comme d'un média aujourd'hui à part entière.
Comme une arme, exactement, c'est ça. Et là, je pense, il faut faire appel. Même si c'est quelquefois compliqué, il faut faire appel à la raison des lecteurs et puis ramener sans arrêt la réalité aux faits. C'est ce que nous essayons de faire. Ça n'est pas facile, mais c'est ce que nous essayons de faire, et y compris sur Internet et surtout sur Internet, puisque c'est devenu aujourd'hui le support privilégié de l'accès à l'information.
Je vous remercie, Jean-Michel Bretonnier, et je vous souhaite une excellente journée.
Merci.
Voilà, c'est la fin de l'Instant M. Bonjour Ali Réveillé.
Bonjour Sonia De Villers. Et on s'intéresse ce matin au rapport qu'entretiennent les ados avec leurs vêtements, des vêtements qui construisent leur identité entre singularité et conformisme. Quel regard portez-vous sur leur façon de s'habiller ? Est-ce une source de conflit ?
Sur le jean déchiré, le caleçon qui dépasse du jean.
Est-ce une source de conflit ? Et vous, quel était votre style quand vous étiez ado ? 01 45 24 7000. C'était quoi votre style, vous ?
Moi, je voulais jamais mettre de manteau, ni de chaussettes, ni de bonnet, ni d'écharpe, et je me faisais engueuler par ma maman tous les matins. Thank you.